RFJ Info, Thomas Nagy.
Bonsoir, journée de deuil au Royaume-Uni. Les obsèques du prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II, ont eu lieu cet après-midi au château de Windsor. Une cérémonie marquée par la pandémie qui s'est tenue en petit comité. Le musée jurassien des arts à Moutier attend ses visiteurs. L'institution accueille deux nouvelles expositions depuis aujourd'hui. La jurassienne Lynn Markey est notamment mise à l'honneur. Le BC Boncourt est à l'ouvrage ce soir en Swiss Basketball League. Les jurassiens défient Montet-Chablais en ce moment dans le chaudron. L'objectif du BCB ce soir, stopper leur série de 7 défaites de rang. C'est un ciel couvert qui nous accompagne en cette fin de journée, mais le temps devrait rester sec durant la nuit. Demain, le ciel sera variable avec de possibles averses en matinée. Le mercure grimpera jusqu'à 9 degrés en pleine et 5 sur les hauteurs. Les Britanniques en deuil aujourd'hui. Les obsèques du prince Philippe ont eu lieu cet après-midi. Le mari de la reine Elisabeth II a été inhumé au château de Windsor où il s'est éteint il y a un peu plus d'une semaine à l'âge de 99 ans. Une cérémonie marquée par la pandémie de coronavirus. Seules 30 personnes ont été autorisées à y prendre part. De Londres, notre correspondante Elodie Goulesque.
Malgré les demandes de la famille royale de regarder la cérémonie à la maison à cause du Covid, quelques centaines de Britanniques ont fait le déplacement au château de Windsor cet après-midi. La plupart tentaient de regarder la cérémonie en direct depuis leur téléphone, mais la tâche a été difficile pour cause de réseaux saturés sur place. Mais lorsque les fanfares accompagnant le cortège funéraire ont retenti, les fans de la famille royale présents sur place ont soudain pu faire partie de la cérémonie. Puis le brouhaha ambiant s'est peu à peu apaisé pour laisser place à la minute de silence nationale à 15h, une minute qui s'est terminée par les applaudissements de la foule devant le château. Du côté des médias britanniques, on a scruté chaque fait et geste de la famille royale. Les princes Harry et William qui n'ont pas marché côte à côte, une cérémonie sans tenue militaire pour éviter de froisser les princes Harry et Andrew qui n'officient plus en tant que membres actifs de la famille royale. Mais l'image qui restera de ces funérailles est celle de la reine, assise seule dans la chapelle Saint-Georges et portant un masque noir, pour un dernier au revoir à celui qui a été à ses côtés pendant plus de 70 ans.
Des progrès autour du nucléaire iranien, mais des négociations difficiles. C'est en ces termes que les discussions qui se tiennent en ce moment à Vienne entre la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie, le Royaume-Uni et l'Iran ont été résumées aujourd'hui. Les États-Unis et l'Iran se parlent toujours de manière indirecte par l'intermédiaire de l'Union européenne. Ce dialogue vise à déterminer quelles sanctions Washington doit lever et quelles mesures Téhéran doit prendre pour revenir au plein respect d'un accord signé en 2015. C'est un retard qui fait grincer des dents. La livraison attendue des doses de vaccins de Moderna est retardée. Seule une petite partie de l'importante cargaison attendue est parvenue en Suisse. La Confédération l'a annoncé hier soir au canton. La veille, elle leur demandait pourtant de se préparer à une accélération du processus de vaccination. Dans un communiqué publié cet après-midi, le canton de Berne appelle la Confédération à transférer aux spécialistes des milieux économiques la responsabilité du programme de livraison. Et la grogne à Chafouz, un millier de personnes se sont rassemblées cet après-midi pour dénoncer les mesures de lutte contre le coronavirus. Un rassemblement qui n'était pas autorisé par les autorités. Les forces de police se sont pourtant tenues en retrait car la manifestation s'est déroulée de manière pacifique. Nous restons calmes nous aussi, il n'y a pas de remède contre la sottise, a-t-elle écrit sur Twitter. Les manifestants qui ne portaient pas de masque ont occupé la zone piétonne durant 3 heures. Une majorité de Suisses serait favorable à l'instauration d'un passeport vaccinal. C'est ce que montre un sondage Comparis réalisé en avril auprès de plus de 1000 personnes. 48% des sondés se disent favorables à un traitement spécial pour les personnes possédant un passeport Covid. Ils sont 44% à s'opposer à cette idée, une proportion qui a diminué depuis le précédent sondage réalisé au mois de novembre. Les routes de la région ont été agitées aujourd'hui. Un accident a eu lieu ce matin dans les Franches-Montagnes. Un camion a dévié de sa trajectoire et a terminé sa course sur le flanc dans un champ. Il circulait entre Seignelégier et les Ressilles. Selon la police cantonale, le chauffeur et son enfant en bas âge sont indemnes. Le camion a été remis sur la route grâce à une grue. Une douzaine d'hommes du SIS Franches-Montagnes et 2 véhicules sont intervenus. La route a été fermée durant 1h30. Et quelques heures plus tard, c'est sur l'A16 que la circulation a dû être interrompue. Une voiture a été impliquée dans un accident. Aucun blessé n'est à déplorer. La voie France entre Courgenay et Port-Antruyest a dû être fermée pour permettre l'évacuation du véhicule et le nettoyage de la chaussée. La circulation est désormais revenue à la normale. On s'éloigne de la route pour franchir la porte du musée. Deux expositions s'ouvrent au musée jurassien des arts à Moutiers. Dès aujourd'hui et jusqu'au 6 juin, l'institution accueille tout d'abord l'artiste jurassienne Lynn Marquis. Ses œuvres récentes revisitent des thèmes religieux comme la Pietà ou l'Annonciation, mais dans une interprétation moderne à la fois poétique et apocalyptique. La grande salle du musée abritera également une œuvre monumentale de l'artiste, 8 mètres de large, une fresque spatiale réalisée spécialement pour l'exposition. La conservatrice du musée, Valentine Raymond.
Ah oui, alors là on est dans un thème qui semble a priori assez différent, qui est la supernova, c'est-à-dire les phénomènes qui suivent la mort d'une étoile. Et alors donc on se dit, bon, elle parle de la mort avant tout, mais elle ne parle pas d'une apocalypse qui serait totalement finale ici, puisque justement ces phénomènes de supernova sont aussi par exemple une onde de choc qui va donner naissance à plein d'autres étoiles. Donc la mort d'un certain monde, la mort du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui peut-être, avec tous les abus qu'on peut faire sur les enfants et aussi sur la nature, devrait mourir pour pouvoir en construire à nouveau.
Et l'autre exposition s'intitule Racines. Elle puise dans les collections du musée, nous parle de racines au sens propre, végétales, mais aussi des racines en tant qu'identité ou encore du déracinement, allusion à la migration. Une thématique forte qui fera l'objet d'une médiation pour les écoliers. Écoutez l'attachée de conservation, Valérie Studer.
Ben oui, je pense que c'est un thème actuel. Et puis c'est vrai que je me réjouis de découvrir comment en fait les enfants découvrent et ce qu'eux pensent sur ce thème justement du déracinement, de l'enracinement. Peut-être qu'eux-mêmes l'ont connu, peut-être qu'ils ont leur famille ont été à un moment donné, sont partis. Donc je me réjouis de découvrir et d'avoir eux leur propre regard sur cette problématique.
Et les deux expositions sont donc à voir jusqu'au 6 juin au musée jurassien des arts à Moutiers.
Sport.
Opération reconquête pour le BC Boncourt ce soir, Yanis Gonia.
Et oui Thomas, les Jurassiens reçoivent actuellement Montéchablais dans le cadre du championnat de Swiss Basketball League. Le coup d'envoi de cette partie a été donné à 17h30 dans le Chaudron. Et si le top 5 semble difficilement atteignable en vue des playoffs, un autre enjeu important entoure cette partie. Le BCB peut mettre fin à une série de 7 défaites consécutives en championnat. Marceline Michon, vous commentez cette partie sur RFJ. Alors au vu du début de match, l'hémorragie peut-être être stoppée dès ce soir, Marceline.
Ah oui, carrément Yanis, et elle le doit, parce que pour l'instant c'est un match à sens unique. Boncourt mène 45-27 alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Large avance donc pour les Jurassiens qui doivent sortir ce soir de cette spirale négative. C'est en tout cas très bien parti. Alors est-ce qu'il y a un peu de potion magique dans le Chaudron ce soir, ou alors est-ce que ce sont les baskets de Vladimir Uzicic, le coach jurassien qui porte des chaussures vertes ce soir? Il nous a dit le vert c'est la couleur de la chance, ces baskets là vont nous porter chance ce soir. Et bien pour l'instant ça fonctionne, près de 20 points d'avance pour les Jurassiens. Vous signalez le très très bon début de match de Miloš Jankovic, l'intérieur du BCB, autant en défense hein, il a muselé le top scorer montezan Jonathan Galloway, et puis également très prolifique offensivement Miloš Jankovic. Vous signalez encore l'absence de Justin Solio, blessé ce soir du côté du BCB. Eric Fong est changé, il est sur le banc, il pourrait faire son retour au jeu après sa blessure à la cheville. En tout cas, large avance pour les Jurassiens, 45-27 ici du côté du Chaudron face à Montet, et un peu plus de 2 minutes à jouer avant le retour au vestiaire et la fin de cette première mi-temps.
Merci Marceline, on vous retrouve bien sûr en direct du Chaudron dès la fin de ce journal. Dans le reste de l'actualité sportive, Stefan Küng a signé sa première victoire de la saison. Le cycliste turgovien a remporté aujourd'hui le contre-la-montre du Tour de Valence. Au terme des 14,3 km du parcours, avec arrivée à Playa Almenara, il a devancé le portugais Nelson Oliveira de 11 secondes et le français Thibaut Guernalex de 39 secondes. Et grâce à ce succès, le Suisse de la Groupama FDJ s'est également emparé du maillot jaune de leader à la veille de l'ultime étape. Et toujours sur deux roues mais à moto, cette fois les Français seront aux avant-postes demain du Grand Prix du Portugal. Fabio Quartararo a décroché la pole position cet après-midi à Portimao. Le pilote Yamaha de MotoGP a précédé l'Espagnol Alex Rins et son compatriote Johan Zarco. De retour après 9 mois d'absence sur blessure, l'Espagnol Marc Marquez sera lui 6e sur la grille départ. Et du côté de la Formule 1, Lewis Hamilton a lui décroché la 99e pole position de sa carrière. Le Britannique a été le plus rapide aujourd'hui lors des qualifications en vue du Grand Prix d'Émilie-Romagne prévu demain. Sur le circuit d'Imola, le pilote de Mercedes a pris le meilleur sur l'Espagnol Sergio Pérez et sur le Néerlandais Max Verstappen. Une semaine après sa victoire au GP de Bahreïn, Lewis Hamilton partira donc favori en Italie. En tennis, la finale du Masters 1000 de Monte Carlo opposera Stepanos Tsitsipas à Andrei Rublev. Le grec s'est qualifié aujourd'hui en battant le britannique Daniel Evans 6-2, 6-1. De son côté, le russe a écarté le norvégien Casper Ruud 6-3, 7-5. Demain, le vainqueur du rendez-vous monégasque s'adjugera son premier trophée dans un tournoi de cette catégorie. Et demain, c'est aussi une finale de rêve qui va se jouer. Le HC Ajoie défie Kloten pour le titre de champion de Swiss League de hockey sur glace. Cette finale des play-offs se disputera au meilleur des 7 matchs, avec l'enjeu d'une montée en National League. Le premier acte est prévu demain à 17h30 en terre zurichoise. Et cette finale aura une saveur particulière pour Frédéric Rotten, l'entraîneur des moins de 20 ans du HCA. Formé au club jurassien, il a porté le maillot de Kloten durant 9 saisons, avant d'y rester encore 9 ans de plus dans le staff technique. Il a passé le dernier exercice à la bande des Vouivres, aux côtés de l'entraîneur Gary Chian et de son assistant Vincent Leschène. Le regard de Frédéric Rotten sur ce duel.
C'est mes deux équipes, donc Ajoie, Kloten, deux belles équipes, les deux meilleures du championnat. Donc pour moi, j'ai passé beaucoup de temps à Kloten, vraiment une finale de rêve.
Avec le plus d'objectivité possible, comment vous situez les chances du HC Ajoie?
Oh ben, intact, je pense qu'on l'a prouvé pendant toute la saison. On a fini au même nombre de points que Kloten, donc on n'a vraiment pas à se cacher. C'est la finale. Tout ce qui a été pendant la saison, c'est à oublier. Et puis, commencer par le prochain match dimanche, essayer d'aller gagner là-bas, ce qui ne sera pas facile, mais possible pour le HCA.
Quelles sont les forces des deux équipes?
Kloten, je pense que la force, c'est qu'ils ont un grand réservoir. Dans l'équipe, ils ont 5 lignes. Des joueurs d'expérience, beaucoup de joueurs qui ont joué en Liga déjà. Donc je pense que c'est leur force. Nous, on a peut-être une équipe un peu moins fournie, mais des joueurs qui en veulent. On a vu le dernier match à Langenthal, quand ils sont au pied du mur, donnent tout. Donc vraiment, après, ça se joue sur quelques matchs. Donc tout est possible.
Et puis, les points faibles de chacune des équipes, selon vous?
Je pense que le point faible de Kloten, c'est qu'ils peuvent se battre eux-mêmes. Parce qu'eux, le but, c'est de monter. Ils sont mis 3 ans pour monter. C'est déjà la 3e année maintenant. Donc, il n'y a que ça. Ils ne peuvent pas échouer. Donc, c'est beaucoup de pression sur les joueurs, sur le staff. Donc, je pense que c'est le point faible de Kloten. Ils se battent eux-mêmes, se mettent tellement de pression. Nous, ben justement, notre cadre est un peu... on a juste 4 lignes, donc s'il y a un peu des bobos, des blessés, il faudra tirer toujours sur les mêmes joueurs, donc ça sera peut-être difficile si la série dure sur 7 matchs.
Et puis finalement, est-ce que pour le hockey suisse, ce ne serait pas mieux que Kloten soit vainqueur et soit promu par rapport à un projet qui est viable pour la National League? Contrairement au HC Ajoie, on a quelques doutes sur les finances?
Oh, ça, je ne peux pas vous dire. Ça, ce n'est pas mon ressort, c'est le comité. Moi, je pense que quand vous gagnez une finale, vous méritez de monter, à point c'est tout. Donc que ce soit Kloten ou Ajoie, je pense que les deux méritent de monter et d'être en Liga.
Vous êtes au plus près des jours du HCA cette saison. Quel sera le message pour cette finale dans le vestiaire?
On a eu une saison très difficile, avec tous les matchs à l'extérieur au début de saison, les entraînements Franche-Montagne, au mois de février, les matchs tous les deux jours, donc vraiment épuisant. Donc là, on est... c'est la dernière ligne droite, donc il faut, je pense, repenser à tout ce qu'on a fait, tous les efforts et puis tous les sacrifices qu'on a fait cette saison. On mérite de finir une saison comme ça, avec une belle finale puis une belle victoire.
Il n'y aura pas ou peu de public, est-ce que les émotions d'une finale, elles seront là?
Difficile à dire pour moi. Je pense que malheureusement, on s'est habitué à jouer sans public. Donc les émotions, elles seront là. On a vu contre Langenthal, ça a joué au play-off. Donc il y a eu des moments durs, intensifs. Donc je pense que ouais, les gars sont habitués, malheureusement. Donc on fait sans le public, mais les émotions seront là, oui.
Et Frédéric Rotten était au micro d'Emilie Mumenthaler. Cette finale de Swiss League entre le HC Ajoie et Kloten sera bien sûr à vivre en intégralité sur RFJ. Et c'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée.
À La soirée restera couverte, mais le temps, lui, sera sec. Demain, le ciel sera changeant. Il alternera entre passages nuageux et averses par endroits. Le mercure grimpera jusqu'à 9 degrés en plaine et 5 dans les Franches-Montagnes. Même programme lundi avec quelques degrés en moins. Très belle soirée.